Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de VOA Afrique en direct du studio 13 ici à Washington. Bagassi Koura et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
À la une ce matin, 143 terroristes de Boko Haram et un soldat camerounais ont été tués hier lors de l'attaque de la ville camerounaise de Kolofata.
Au Gabon, le domicile de l'opposant Jean Ping a été attaqué hier par des jeunes.
En France, plus de 10 000 soldats déployés à partir de ce matin pour prévenir tout acte terroriste.
Et pendant ce temps, Washington fait son mea culpa pour n'avoir pas envoyé une personnalité de haut rang au rassemblement de solidarité de dimanche en France.
La Minute Écho dans moins de 10 minutes, suivi des sports avec Nicolas Pineau. Mais avant, le journal.
143 terroristes de Boko Haram et un soldat camerounais ont été tués hier lundi dans l'attaque de la ville camerounaise de Kolofata. C'est le bilan donné par le gouvernement camerounais, Morgane Guiriec.
Le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, porte-parole du gouvernement, a annoncé hier sur la télévision nationale un bilan sans appel. 143 assaillants tués, côté camerounais, on déplore la perte d'un soldat et 4 blessés. Ce bilan n'a pas été confirmé par une source indépendante. Le gouvernement fait également état de fusils d'assaut, d'armes lourdes et de munitions saisies. Kolofata, dans le nord-ouest du pays, a fait l'objet d'une attaque de Boko Haram. La ville abrite un camp militaire, notamment le bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite camerounaise. Selon le ministre de la Communication, les combats ont duré plus de 5 heures et l'armée a mis en déroute les islamistes nigérians.
Au Gabon, le domicile de Jean Ping, l'un des principaux opposants du pays, a été attaqué hier par une bande de jeunes selon l'AFP. Vers 8h30, une bande de 200 jeunes, des loubards du régime, sont venus nous agresser à coups de cailloux. Ils ont allumé un feu, cassé les vitres, a expliqué à l'AFP M. Ping, qui a accusé la gendarmerie de ne pas être intervenu. Ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping était un proche de l'ancien président Omar Bongo, mais il est passé dans l'opposition depuis l'avènement de son fils Ali Bongo.
L'un des deux des principaux chefs de l'armée de résistance du Seigneur, Dominique Ongwen, qui s'est rendu la semaine dernière, appelle maintenant ses anciens compagnons à se rendre. Chérubin Dorsil.
Dans un enregistrement audio diffusé par la télévision ougandaise, un homme s'identifiant comme Dominique Ongwen demande pardon. Il affirme que la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, n'a aucun avenir et appelle ses anciens camarades à la reddition. M. Ongwen s'est rendu la semaine dernière aux forces spéciales américaines en Centrafrique. Il reste sous la garde des soldats américains et devrait être transféré en Ouganda. Il est réclamé par la Cour pénale internationale, mais le président ougandais Yoweri Museveni ne cesse de tirer à boulets rouges sur ce tribunal, l'accusant de ne viser que des Africains. Ancien enfant soldat, Dominique Ongwen était l'un des derniers proches de Joseph Kony. Mais le chef de l'armée de résistance du Seigneur, également poursuivi par la CPI, est resté insaisissable depuis plusieurs années.
En Centrafrique, musulmans et chrétiens commencent à se parler, mais des clivages persistent selon la conférence épiscopale de Centrafrique, Félix Yepassis Zembrou.
D'après le communiqué de la conférence épiscopale de Centrafrique, les communautés chrétiennes et musulmanes se rencontrent de plus en plus, mais des clivages persistent dans plusieurs localités, dont Bangui. Le redéploiement partiel des policiers, gendarmes et magistrats est un soulagement pour la population, font remarquer les évêques. Ils appellent les leaders politiques à dépasser leurs intérêts égoïstes. Les évêques centrafricains ont salué les efforts de la communauté internationale et demandent le désarmement systématique des groupes armés non conventionnels. La semaine dernière, au moins 6 personnes ont été tuées dans des violences à Bambari, où s'est installé l'état-major de l'ex-coalition Séléka. Depuis le mois de juin, Bambari a été le théâtre d'affrontements qui ont fait plus de 100 morts et des dizaines de milliers de déplacés.
Le gouvernement de Madagascar, dirigé par Roger Kolo, en fonction depuis avril 2014, a démissionné en bloc lundi. C'est ce qu'a annoncé la présidence malgache. D'après l'AFP, aucune explication n'a été fournie sur les raisons de cette démission, largement anticipée par la presse locale. Le gouvernement de Roger Kolo était notamment très critiqué sur sa gestion de l'approvisionnement en électricité, alors que la grande île est confrontée à des délestages de plus en plus fréquents.
Au Soudan du Sud, les différentes factions belligérantes se sont engagées à accélérer le processus de paix à l'issue d'une médiation menée par Pékin. Le ministre des Affaires étrangères du Soudan voisin, Ali Karti, affirme que les discussions ont été initiées par son homologue chinois Wang Yi. Présentement en visite à Khartoum, la capitale du Soudan, la Chine a investi massivement dans la production du pétrole du Soudan du Sud et a engagé des troupes de combat pour faire partie d'une force de maintien de la paix des Nations Unies dans ce pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Washington a admis avoir commis une erreur en n'envoyant pas une personnalité de haut rang pour assister au rassemblement de solidarité en France à la suite des attaques terroristes de la semaine dernière à Paris. Jean-Roger Bion.
L'Amérique a exprimé son regret de n'avoir mandaté que Jane Attlee et Victoria Nuland, respectivement ambassadeurs des États-Unis en France et chef de la diplomatie américaine pour l'Europe à la manifestation de Paris. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Innes, a été plutôt clair.
Je pense qu'il est juste de dire que nous aurions dû envoyer quelqu'un avec un profil plus élevé pour nous représenter.
Le porte-parole de la Maison-Blanche a évoqué en partie des problèmes de sécurité. Le secrétaire d'État John Kerry va tenter de colmater les brèches. Actuellement en tournée au Pakistan et en Inde, le chef de la diplomatie américaine va marquer jeudi une escale en France avant son retour à Washington. John Kerry va rencontrer son homologue français Laurent Fabius pour rendre hommage aux 17 victimes des attentats du magazine satirique français Charlie Hebdo et du supermarché Kasher à Paris.
Par ailleurs, le corps des 4 juifs tués vendredi dernier au cours de l'attentat islamique contre un supermarché Kasher à Paris sont arrivés ce matin en Israël pour y être enterrés.
Et le journal satirique français Charlie Hebdo, décimé par l'attentat islamiste, a de nouveau dessiné le prophète Mahomet en une pour son prochain numéro de demain et lui fait proclamer « Je suis Charlie ». Cible des islamistes justement pour avoir souvent caricaturé Mahomet, Charlie Hebdo représente en une un prophète qui pleure, habillé de blanc et tenant entre ses mains une pancarte « Je suis Charlie », le slogan mondial des manifestants contre l'attentat qui ont défilé par millions dimanche. Au-dessus du dessin, le journal titre « Tout est pardonné », un dessin signé Luz et obtenu par l'AFP lundi soir. Ce numéro dit des survivants sera tiré à 3 millions d'exemplaires contre 60 000 habituellement et il sera vendu dans 25 pays.
Les comptes Twitter et YouTube de l'armée américaine piratés par un groupe se réclamant de l'État islamique, Michel Joseph.
Un groupe se déclarant fidèle à l'État islamique a pris le contrôle du compte Twitter du commandement américain au Moyen-Orient, le CENTCOM, diffusant des menaces contre les soldats américains. On arrive, regardez derrière vous, État islamique. D'autres tweets comprenaient des photos de documents qui semblaient afficher les numéros de téléphone, e-mail et adresses personnelles de responsables militaires américains. Des responsables du CENTCOM ont confirmé à la Voix de l'Amérique que les sites Twitter et YouTube du commandement avaient été attaqués. Des mesures appropriées ont été prises pour régler le problème. Une partie du matériel diffusé sur Twitter, dénoté d'un certain sens de l'humour, notamment une photo d'une chèvre, était dotée de la légende « Nous sommes dans votre ordinateur ». Une autre photo affichait le message « Je vous aime, État islamique ». Le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a dit que l'administration prenait tout cela au sérieux, tout en minimisant l'ampleur et l'importance du piratage.
Les deux boîtes noires de l'avion d'Erasia sont désormais aux mains des enquêteurs. C'est ce qu'ont annoncé les autorités indonésiennes, citées par l'AFP. Selon un responsable des recherches, l'enregistreur retrouvé se trouvait à bord d'un navire de guerre indonésien. L'avion d'Erasia s'est abîmé en mer de Java le 28 décembre avec 162 personnes à son bord.
Selon un haut responsable du département d'État américain, le Pakistan est prêt à s'en prendre aux talibans sans faire de différence entre bons et mauvais talibans. Cette déclaration a été faite lundi après une série de réunions à Islamabad entre le secrétaire d'État John Kerry et les dirigeants pakistanais, dont le premier ministre Nawaz Sharif. Selon un responsable du département d'État, les États-Unis comptent fournir 250 millions de dollars d'aide au pays. Cette aide sera consacrée au Waziristan Nord et d'autres zones tribales pour aider à la reconstruction et aider aussi des personnes déplacées.
Le pape François a exhorté au respect des droits de l'homme et à la recherche de vérité au Sri Lanka, pays déchiré pendant des décennies par la guerre civile, et ce à son arrivée pour une visite de 2 jours. Le processus de guérison demande d'inclure la recherche de vérité, a dit le Saint-Père depuis l'aéroport de Colombo.
Les autorités cubaines ont relâché ces derniers jours 53 prisonniers politiques dont la remise en liberté était exigée par Washington dans le cadre du rapprochement diplomatique historique amorcé entre les deux pays. Selon l'AFP, le département d'État a révélé hier à la presse que le gouvernement cubain avait notifié aux États-Unis avoir bouclé la remise en liberté des 53 prisonniers politiques qu'il s'était engagé à libérer. Et d'après l'AFP, cette liste ne comprend aucun dissident de premier plan.
Une personne est décédée dans le métro de Washington en raison d'émanations de fumée d'origine indéterminée. Des centaines d'usagers ont été évacués et cela a causé d'importantes perturbations en pleine heure de pointe dans la capitale américaine. Sur son site internet, l'autorité des transports de Washington indique que l'origine du dégagement de fumée n'a pas été identifiée et qu'une enquête est en cours. L'incident s'est produit à quelques 300 mètres de la Voie de l'Amérique, à la station L'Enfant Plaza, en plein centre-ville, où pas moins de 5 lignes de métro se croisent.
La minute économique pour tout savoir sur l'actualité économique en Afrique. Avec nous ce matin, Jean-Roger Billon. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Le pétrole finit à son plus bas niveau depuis mars 2009 à New York, à 46,07 dollars.
Oui, ce niveau de prix n'avait plus été vu depuis presque 6 ans. Le pire reste à venir. Cependant, disent les investisseurs qui anticipent de nouveaux mois de dégringolade face à une offre surabondante de brut. Le baril du cru léger est tombé à 46,07 dollars, terminant à son plus bas niveau en clôture depuis le 11 mars 2009.
Le salon de l'automobile de Détroit a ouvert ses portes hier en offrant toute une gamme de nouveautés.
Le secteur automobile aux États-Unis est en plein essor. L'année 2014 s'est achevée sur une vigoureuse hausse des ventes à plus de 5,8%. À Détroit, des milliers d'exposants et visiteurs peuvent admirer des dizaines de premières mondiales, de séries et prototypes exposés sur des stands étincelants.
En Algérie, l'exploitation du gaz de schiste va continuer malgré l'opposition des habitants du Sahara où se trouvent les gisements.
Le groupe public algérien Sonatrach va investir pas moins de 70 milliards de dollars sur 20 ans. Ce projet devrait permettre la création de 50 000 emplois selon le groupe. Les manifestations contre l'exploitation du gaz de schiste se sont multipliées dans les villes du Sahara algérien depuis que le groupe pétrolier a annoncé à la fin du mois de décembre avoir effectué avec succès son premier forage pilote dans la région d'Ain Salah.
Merci Jean-Roger. Voilà, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique, c'est l'heure des sports. J'accueille Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Bagassi.
Cristiano Ronaldo remporte le Ballon d'Or 2014.
Oui, 3 finalistes pour un trophée doré. Cristiano Ronaldo a donc été sacré devant Messi et Neuer. À 29 ans, l'attaquant portugais du Real de Madrid a fait exploser tous les compteurs en 2014 et a donc logiquement assumé le statut de favori. Il a déjà remporté ce trophée en 2008 et 2013. Un beau palmarès pour cette année 2014 avec le titre de meilleur buteur du championnat espagnol. Le Portugais a également remporté 4 trophées, la Ligue des Champions, la Coupe d'Espagne, le Mondial des Clubs et la Supercoupe d'Europe. Sachez également que c'est Joachim Löw, le sélectionneur de l'équipe allemande championne du monde, qui a été désigné entraîneur de l'année. Il devance les 2 autres finalistes, l'Italien Carlo Ancelotti, entraîneur du Real de Madrid et vainqueur de la Ligue des Champions, et l'Argentin Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, champion d'Espagne.
Cannes 2015, les dernières infos sur la compétition.
Victime d'une élongation, Fakhreddine Ben Youssef, le nouvel attaquant du FC Metz, a été contraint de déclarer forfait pour la Cannes 2015 avec la Tunisie. Et 2 nouveaux matchs de préparation ce mardi, au Maroc, à Casablanca, le Sénégal face à la Guinée et à Nelspruit, en Afrique du Sud, le vice-champion d'Afrique, les Burkinabés, qui poursuivent leur préparation face au Botswana.
Et en bref.
Oui, alors que la Coupe d'Asie de football vient de débuter en Australie, un match particulier a retenu l'attention ce lundi. L'équipe du Japon affrontait la sélection de Palestine, qualifiée pour la première fois pour cette compétition la plus prestigieuse de la zone asiatique. Et bien lourde défaite pour les Palestiniens, 4-0. Enfin, Bagassi, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, victoire des Boston Celtics sur les New Orleans Pelicans 108-100. Houston a battu Brooklyn 113-99. Peu de chance pour nos amis de Toronto face aux Detroit Pistons 114-111. Et enfin, les Orlando Magic ont eu raison des Bulls de Chicago 121-114.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà, il est 6h40 ans universel. Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. De retour avec vous, Agassi Koura pour Le Monde aujourd'hui. On commence par la France où plus de 10 000 soldats sont déployés à partir de ce matin à travers tout le pays. De leur côté, les autres gouvernements européens réexaminent leurs mesures de sécurité après ces attaques terroristes qui ont fait 17 morts la semaine dernière en France. Les précisions de Lionel Gaïman.
Le Premier ministre Manuel Valls a averti que la France ne doit pas baisser la garde parce que la menace est encore présente. Monsieur Valls s'adressant à nos confrères de BFM TV.
Le plus haut niveau du plan Vigipirate non seulement est maintenu, mais je veux le dire ici devant vous, nous maintenons et nous déployons à un niveau jamais atteint le nombre de militaires, puisque 8470 militaires vont être déployés. Vous savez qu'il y avait à peu près un millier de soldats dans le cadre du plan Vigipirate. Nous en avons déployé 2000 supplémentaires et dans les jours qui viennent, nous allons en déployer 6000 en plus de l'engagement des forces de l'ordre, policiers et gendarmes, puisque 4100 gendarmes mobiles et CRS sont déjà déployés.
C'est la première fois que la France déploie autant de troupes sur son territoire. Et selon le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, quelques 5000 membres des forces de sécurité seront chargés de la protection de 717 écoles et lieux de culte juifs. Pour l'expert Sean Gregory de Durham University en Grande-Bretagne, il est évident que l'État français cherche ainsi à éviter la répétition des événements tragiques de la semaine dernière. Mais face au fléau du terrorisme, dit-il, les gouvernements européens réexaminent les solutions à long terme.
Il y a un grand degré de coopération entre gouvernements.
C'est nécessaire parce que, de toute évidence, les djihadistes se déplacent très facilement ces jours-ci et ils peuvent se procurer mutuellement inspiration et entraînement. Pour rappel, M. Cazeneuve, le ministre français de l'Intérieur, a déclaré dimanche que ses homologues européens ont accepté de renforcer leur coopération pour faire face aux attaques des extrémistes. Ils s'étaient rencontrés peu avant que plus de 3,5 millions de personnes descendent dans les rues de Paris pour montrer leur solidarité avec les victimes des attaques de la semaine dernière. Et Eric Holder, ministre américain de la Justice, a annoncé qu'un sommet pour combattre l'extrémisme se tiendra le 18 février, ici même aux États-Unis.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'opposition béninoise n'est pas d'accord avec la dernière décision de la Cour constitutionnelle visant à aider à sortir de l'impasse observée au niveau de la correction de la LEPI, la liste électorale permanente informatisée. Pendant ce temps, la mouvance présidentielle, elle, jubile. Pour elle, la Cour est dans son rôle. Le reportage de Peggy Ludovic Dagba à Cotonou.
Par une décision rendue le 9 janvier 2015, la Cour constitutionnelle béninoise donne le 15 janvier 2015 comme date butoir pour la livraison de la liste électorale permanente informatisée, LEPI. Faute de quoi, ce sera la LEPI 2011 qui servira de base aux prochaines élections. Ce qui suscite depuis lors une avalanche de réactions, tant de la part de l'opposition que de la mouvance présidentielle. Pour Victor Topanou, membre de l'opposition et candidat déclaré à la prochaine présidentielle, c'est une décision qui ne pourra pas s'appliquer.
Comment le juge constitutionnel peut considérer que la LEPI de 2011 n'a point été contestée par le législateur? Historiquement, c'est faux et politiquement, c'est faux. En 2010, le législateur a pris une loi pour abroger la LEPI. La Cour constitutionnelle, à ce moment-là, avait déployé des arguments aussi saugrenus les uns que les autres pour dire que la loi abrogatoire ne devrait pas être acceptée. Aujourd'hui, elle a oublié ça et dit que le législateur n'a point contesté la LEPI de 2011. Et pourquoi la Cour peut penser que c'est au législateur qui revient de contester la LEPI? C'est pas au législateur, c'est au destinataire de la loi de contester la loi. Et en l'occurrence, ce sont les acteurs politiques, ce sont les acteurs de la société civile et ce sont les journalistes. Tout le monde dans ce pays a contesté la LEPI. Déjà à partir de l'élection de 2011, les candidats s'étaient réunis en un collectif pour le contester. Ensuite, le président de la République, une fois les élections passées, a lui-même commis des experts de la francophonie. Après, il a renvoyé le bébé à l'Assemblée nationale, qui a adopté une loi pour bien montrer qu'il y avait un problème avec la LEPI de 2011, que la Cour constitutionnelle a validé et qui justifie l'existence aujourd'hui du COSLEPI. Et puis avec tout ça, la Cour vient nous dire aujourd'hui que l'EPI de 2011 n'a pas été contesté par le législateur.
Benoît Desglas, de la mouvance présidentielle, applaudit lui dès demain cette décision, parce que c'est là une pression supplémentaire sur le COSLEPI, l'organe de supervision de la correction de la LEPI, pour livrer enfin la liste tant attendue. Mais à ceux qui pensent que la Cour constitutionnelle vient de dévoiler le plan secret de Boulayi, voici sa réaction.
C'est les voleurs qui clôt voleurs. On sait qu'ils sont ceux-là qui nous ont voulu des élections. Lorsque le chef d'État parle de la télécommande, les gens ne comprennent pas. La télécommande, ça dit quoi? Ça dit que c'est l'intention inavouée de nos amis de l'opposition qui n'ont jamais voulu des élections parce qu'ils savent très bien qu'ils seront battus à plate couture. Depuis le 5 décembre 2014, devrait se tenir le dialogue politique. Ils ont boycotté. Nous avons dit que nous pourrions même marcher sur le coffre des pieds pour qu'ils mettent rapidement à disposition la liste. Donc s'il y a des gens qui ne veulent pas des élections, c'est bel et bien ceux de l'opposition et nous la mouvance.
Selon la décision, les législatives devront se tenir le 26 avril 2015 et les communales locales et municipales le 31 mai 2015. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
Direction la RDC, là-bas, la police nationale veut étendre sa branche de police de proximité sur l'ensemble de la province du sud de Kivu pour être, dit-on, plus efficace dans la protection des populations et des biens. Cette nouvelle approche est déjà en train d'être expérimentée dans 3 autres provinces du pays, à savoir le sud de Kivu, le Bas-Congo et le Kasaï occidental. Le commissaire de la police au sud de Kivu, le général Jean Bosco Galenga, note par ailleurs que les effectifs de cette branche doivent être renforcés. Il s'est entretenu avec notre correspondante au sud Kivu, Jolie Kamuntu.
En fait, c'est un nouveau mode de fonctionnement que la police est en train d'introduire en République démocratique du Congo. Et 3 provinces étaient choisies à cet effet. Le sud Kivu, notre province, je commence par elle, la province du Bas-Congo, ainsi que celle du Kasaï occidental, dans leurs différents chefs-lieux, c'est-à-dire les villes de Bukavu, Kananga et Matadi ont été choisies comme des villes pilotes, des villes expérimentales pour l'introduction de la police de proximité. À ce jour, madame, pour la ville de Bukavu, 3 cycles de personnel ont été formés et ils ont été déployés dans les différentes communes. Les partenaires qui nous y ont accompagnés nous ont placé quelques infrastructures, mais qui ne sont pas, à mon sens, suffisantes en ce jour. La doctrine, elle est bonne, là où elle est appliquée, elle a bien marché. Mais nous avons le problème du maillage de la ville. En 2015, nous avons exprimé le besoin à l'autorité provinciale comme à l'autorité centrale de la police de déployer beaucoup plus de policiers dans la ville de Bukavu. De sorte que la proximité puisse ne pas être simplement en termes de relations professionnelles, de relations de travail entre la police et la communauté, mais qu'elles soient également en termes de rapports physiques qui sont très proches.
Général, justement, par rapport à la police de proximité dans certains quartiers de Bukavu, on se plaint qu'elle tracasse plus qu'elle ne protège. Est-ce que ça, c'est un défi? Et si oui, comment vous pensez y remédier pour cette année qui commence?
Madame, les défis sont nombreux. Tout ce que nous demandons, c'est d'abord à la communauté tout entière de nous dénoncer des cas d'égarement des policiers, de dénoncer des cas où on voit avec flagrance qu'il y a une déviation. Donc ce que ces gens-là font, ça ne tient ni des consignes que nous leur donnons, ni des ordres, ni de la formation qu'ils reçoivent de la police. Il y a certainement des brebis galeuses au sein de la police. Ce que nous demandons, c'est qu'on les dénonce et nous nous chargerons de les extirper.
Voilà, c'était le commissaire de la police au sud de Kivu, le général Jean Bosco Galenga, au micro de Jolie Kamuntu.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
On passe à la page musicale avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Bagassi. La chanson de Ed Sheeran, Thinking Out Loud, est numéro 4 cette semaine dans le hit parade américain. De son vrai nom, Edward Christopher Sheeran est un auteur, compositeur, interprète britannique. On l'écoute ce matin dans Thinking Out Loud.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23.
Ed Sheeran débute sa carrière en sortant plusieurs disques autoproduits.
Oui, Bagassi, et cela a payé en fin de compte, hein, car en 2011, Sheeran est signé par Atlantic Records. Il fait partie des 10 meilleures ventes d'albums de l'année au niveau national selon l'OCC ou l'Official Chart Company, une maison qui édite les divers classements officiels de vente de disques au Royaume-Uni. Il est aussi certifié triple disque de platine par le BPI.
Ed Sheeran dans Thinking Out Loud. Merci Roger.
Mais c'est moi qui vous remercie Bagassi. Un grand coucou ce matin à tous nos auditeurs de Lunda North en Angola.
Voilà Roger Muntu que vous retrouvez chaque soir dans RM Show à partir de 20h temps universel.
Place your head on my beating heart. Thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about
ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Merci à toute la rédaction de La Voix de l'Amérique. Et ce matin, c'était Anne Alberson et Bagassi Koura en votre compagnie. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Africa.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.